Les accords de coopération concernent tout un... Il y a un volet militaire. Le volet militaire, quand on regarde quelles sont les doctrines qui sont alors à l'œuvre dans le monde militaire français et qui seront communiquées aux officiers locaux, on va se rendre compte que si on regarde un précis de droit d'outre-mer de 1946 et qu'on regarde le pouvoir du gouverneur général en matière de circonstances exceptionnelles, il est le même. Ces pouvoirs sont exactement les mêmes que ceux qu'ont les présidents, en fin de compte, des républiques autonomes qui vont exister à ce moment-là. On transforme pendant un certain temps les gouverneurs, les présidents de la des républiques émergentes en gouverneurs auxquels ils se substituent et qui possèdent leur propre capacité de gestion locale de l'ordre public, avec derrière les articles de l'exceptionnalité. On transforme ainsi des présidents de la République du Tchad, de telle région, de tel pays, etc., en gouverneurs généraux. Ils ont les mêmes prérogatives, sauf que là, on leur donne une constitution solide à la base et non plus une réglementation touffue et complexe. Les accords de coopération technique vont apporter les doctrines militaires de l'époque, c'est-à-dire contre-insurrectionnelles essentiellement, avec quadrillage territorial qui reprend le quadrillage de souveraineté coloniale, et avec, et là Olivier Lecourt a écrit là-dessus, avec des possibilités d'internement administratif, tout à fait discrétionnaire, mais sous l'empire de l'article 16, corrigé, revu et à la sauce locale, on va retrouver les mêmes dispositions de possibilité de prendre quelqu'un et de le mettre dans une prison, ou aussi on va avoir la punition collective. La punition collective est aussi dans les répressions un phénomène récurrent dans les phénomènes répressifs pendant la période et de la décolonisation, pendant la période des guerres dites coloniales, et de l'autre côté, toute la période de stabilisation, entre guillemets, de la période de la guerre froide en Afrique. Notamment, par exemple, les Bamileke au Cameroun.
Une dernière question, Bernard Morales.
Oui. En ce qui concerne la question de l'exceptionnalité, est-ce que quand même on ne pourrait pas faire basculer l'analyse aussi, parce que vous avez beaucoup axé votre analyse, et c'était très intéressant, du côté de l'exécutif, mais moi j'aurais tendance aussi à la faire basculer du côté du Parlement. Parce que ce qui frappe le système de la Ve République, c'est une tradition qui s'est instaurée dès le début, alors que ça n'est pas du tout indiqué dans la Constitution, qui est que les députés sont quand même très distant par rapport à la question du budget, par rapport à la question des crédits de fonctionnement. Et on sait bien que cette exception dans laquelle s'est installé l'exécutif n'a été possible que parce qu'il dispose de crédits de fonctionnement à sa guise, qui lui sont attribués, on ne sait pas trop comment, il y a des enveloppes, etc. Mais si, on ne peut pas refaire l'histoire, mais on voit bien que si les députés dès la première législature de 58, avait réellement voté un budget et avait voulu le contrôler, je crois que l'exécutif aurait été un petit peu gêné quand même aux entournures, pour parler familièrement. Qu'est-ce que vous en pensez?
Disons que là, on en est à regarder un peu plus près l'émergence de la, les circonstances d'émergence de la Ve République. Moi, pendant très longtemps, lorsque on abordait la question de savoir s'il y avait eu coup d'État ou pas de la part de De Gaulle et de la part des gaullistes, c'était une question difficile à trancher. Or maintenant, si on regarde le plan de l'opération Résurrection, la multi-opérationnalité de certains régiments où des officiers d'active prennent le contrôle de comités de salut public avec des mobilisations à travers des systèmes de mobilisation de masse que eux-mêmes ils ont implantés dans la population et qu'on retrouvera par ailleurs à l'Africaine beaucoup plus tard, bon, pas si tard que ça, eh ben les conditions d'émergence de la Ve République ne sont pas des conditions démocratiques. C'est le moins qu'on puisse dire. Et les anciens gaullistes, les gaullistes historiques, ont un immense mépris pour ce qui concerne les procédures parlementaires. Focard, il sévit depuis 1947 auprès de De Gaulle. Les gens qui font partie du service d'ordre du général de Gaulle et du RPF sont le commandant Ponchardier, le colonel Lacheroy. Ce sont des gens qui ont des habitudes, et ils sont des officiers de la coloniale, ou des gens qui sont des gens qui viennent des commandos qui feront la guerre d'Indochine. Donc on a là affaire à il y a tout un côté non démocratique à la pensée du général de Gaulle et à sa façon d'agir, qui fait qu'à un moment donné, c'est vrai, on a laissé aux Français la beauté d'un Parlement rationalisé, qui vote des lois, mais qui est un Parlement croupion, tous les constitutionnalistes le disent, et avec un exécutif bicéphale qui, aujourd'hui, on en voit les limites. Et on voit aussi les limites des dispositifs de sécurité qui sont à l'origine même de l'émergence de la Ve République dans le cadre de la guerre froide et de la guerre d'Algérie. C'est-à-dire qu'on a affaire à des choix aussi de nature stratégique, politique, militaire, qui ont influencé jusqu'au génocide rwandais la politique extérieure de la France, parce que ce sont des situations structurelles à la constitution de la Ve République et au fonctionnement de l'État français et de certains secteurs de l'État français encore. Là-dessus, le Parlement n'a que très peu à dire sur l'organisation des forces spéciales aujourd'hui.
D'accord. Je crois que la Constitution, si on la lit attentivement, offre un grand pouvoir au Parlement. Le régime est parlementaire. Le Parlement peut très bien renvoyer un Premier ministre et ne pas voter la confiance à ce Premier ministre. Maintenant, la tradition s'est instaurée, par exemple, c'est le Président qui renvoie le Premier ministre. C'est contraire à la Constitution. Donc, si les parlementaires voulaient jouir totalement de leurs prérogatives, à mon avis, le pouvoir du Président serait diminué. Même étant élu au suffrage
Faut savoir qu'il y a mais regardez qu'il y a l'initiative des lois en France. Mais bon, c'est un débat constitutionnaliste.
Je crois que
c'est un peu une sortie. Mais je crois qu'il y a quand même un côté du retour du colonial dans la structuration de l'espace politique français aussi. C'est-à-dire que nos institutions se sont aussi imposées d'une façon particulière, y compris en France. Et dans ce cadre-là, on a eu ce même type de relation aux politiques par l'exportation de notre système aussi. Je crois qu'on l'a mis en série. On a mis en série notre dispositif, et il n'est pas de Gaulle qui veut, d'une certaine façon. Hein. Mais c'est la seule. C'est un problème de personnalité. Mais ce n'est pas un problème de normativité, vu que le noyau dur de la violence légitime d'État est placé tel une mine dérivante sous l'article 16. Et là, on n'arrive pas forcément à la contrôler. Mais je voudrais aller un peu plus loin. Je voudrais aller un tout petit peu plus loin encore. Si justement je regarde les textes relatifs à l'ordre et à la sécurité publique de la République islamique de Mauritanie. Il y a une loi de 59-054 du 10 juillet 1959 sur la protection de l'ordre public. Une loi qui, aujourd'hui... Un décret du 17 février 1973 relatif à la protection de l'ordre public à Nouakchott. Du 19 janvier 1960 relatif à la répression de certains actes portant atteinte à la sécurité, à l'ordre public et au crédit de l'État. Toutes ces lois renvoient en fait à des lois, quand on les lit, à des lois et à des discours institutionnels déjà présents dans nos propres lois répressives. Donc il y a une interaction réelle entre la normativité à la française et la normativité de ces pays émergents à un moment donné. On retrouvera par ailleurs en Amérique latine certaines caractéristiques aussi, en Argentine notamment, où des doctrines militaires françaises seront aussi implantées au niveau de l'État avec des fonctionnements qui aboutiront aussi à des pratiques, assez agressives envers la société civile. Dernier point. Il existe à l'intérieur de l'ensemble des lois qui sont appliquées et applicables en cas d'urgence en France, une loi qui a été, qui est la loi de 1947 et qui est appliquée pour la résorption des grandes grèves insurrectionnelles de 1947-48. Or, cette loi qui est une loi interministérielle va réquisitionner les troupes de marine pour la répression de ces grèves insurrectionnelles. Et ces mêmes lois vont être réappliquées au moment où on va réprimer la grève générale algérienne à Alger, de décembre 56, qui va ouvrir la bataille d'Alger. Donc on se retrouve de nouveau, et les commentaires militaires disent « L'autorité peut très bien se trouver devant une autorité, devant un état de siège de facto, c'est-à-dire même pas décidé par l'autorité civile. » C'est-à-dire que l'autorité militaire peut s'autonomiser et prendre elle-même ses propres décisions dans ces circonstances exceptionnelles-là. Donc on peut voir qu'il y a toute une technique répressive qui, à un moment ou à un autre, en arrive à autonomiser les forces répressives spécifiques, militaires et policières, qui, lorsqu'on les place à la tête d'un État, directement comme norme permanente, peut parfaitement devenir une situation permanente de contrôle des populations dans un système de quadrillage et de carte d'identité codée avec le lieu de résidence, le lieu de filtrage, etc. Et ce qui a existé de fait, parfois même avec des critères raciaux, comme dans le cas rwandais.